C'est un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, voire un peu avant, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 32e émission de Roman Gare, j'ai eu le plaisir d'accueillir l'auteur bugiste de cœur et oyonnaxien d'adoption Georges Arpin, dont le premier livre « Oyonnax, ingénieuse et rebelle », 100 ans de mémoire ouvrière, est paru le 13 septembre 2024. Georges, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Mais c'est un plaisir de vous accueillir. Alors, vous préférez le mot « auteur » ou « écrivain » lorsqu'on vous présente ?
Auteur, peut-être. Je ne suis pas écrivain, je n'ai jamais écrit. C'est mon premier livre. Et je voulais que ça reste la mémoire ouvrière oyonnaxienne. Parce qu'il y a eu peu de livres déjà qui ont été écrits sur Oyonnax. Les livres qui ont été écrits, c'est par des associations ou des industriels. Mais la mémoire ouvrière, elle n'y était pas. On ne parlait pas des petits, des oubliés, de ceux qui ont créé Oyonnax, les artisans et les ouvriers. Et ça manquait. En sachant tout ce que les artisans, les ouvriers ont apporté, ont construit cet Oyonnax, et qui reste aujourd'hui avec trois monuments, je dirais, entre guillemets, d'Oyonnax. C'est la grande vapeur, c'est le travail, c'est les piéçards. Deuxième, qui reste plus que la façade, c'était la maison du peuple. Il y a quand même eu, on y reviendra sans doute,
bien sûr.
La maison du peuple qui a été construite et qui reste la façade cette maison du peuple.
Il faut lever bien haut la tête, là.
Oui, il faut lever bien haut.
Moi, je ne l'avais jamais vu. Hein.
Oui, mais, et en dessous, c'est une banque.
Voilà, c'est peut-être pour ça.
Et puis, la troisième chose importante, là aussi, on y reviendra, c'est le centre culturel Aragon qui a été construit alors que c'était dans un désert culturel.
Voilà. Donc le mot auteur vous va bien.
Voilà.
Alors, depuis vos débuts en tant que représentant du personnel de l'entreprise oyonnaxienne Billon, vous avez eu le temps de manier les mots, hein, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors, qu'en était-il lorsque vous étiez enfant et adolescent? Quelle place avait l'écriture et la lecture du côté de Bosch, c'est ça?
Oui. Oui, ben, j'ai toujours aimé lire. Je me rappelle, j'ai justement... Et c'est ça qui peut-être qui m'a aidé à progresser. Quand j'étais petit, je me rappelle, j'aimais lire, j'allais garder les vaches, j'emmenais des livres pour lire. À l'école, j'étais souvent à la bibliothèque pour. J'ai découvert, par exemple, quelqu'un de Bourque, Roger Vaillant, où j'avais 16-17 ans. Et j'ai lu pratiquement à cette période-là, j'ai découvert ce Roger Vaillant. Et quand je suis arrivé sur Oyonnax, encore plus avec Roger Vaillant, les 325 000 francs, qui le livre, le film, et c'est important pour Oyonnax.
L'engagement est arrivé avec votre embauche chez Billon ou elle était déjà présente avant?
Non, avant, je ne veux pas dire que j'étais engagé. J'étais peut-être révolté, comme beaucoup, mais je n'étais pas engagé. Oui, le vrai engagement, c'est quand je suis rentré chez Billon, je suis rentré au mois d'août. Mais c'est pas, j'en tire aucun honneur. Au mois de décembre, j'étais syndiqué chez Billon en production. Tout le monde, à cette époque, était syndiqué. Était à la Massif, était à la MOFA. C'était la règle en production. Donc, c'est pas, j'en suis fier, mais ce n'est pas dû parce que j'aurais pris conscience. Voilà, j'étais syndiqué. Et très vite, j'ai eu des responsabilités syndicales, délégué du personnel. Après, j'ai milité à l'Union locale, l'Union départementale, enfin, le cheminement normal d'un militant. Voilà.
Alors, du côté de Yonah, vous êtes bien connu pour votre parcours de syndicaliste du côté de la CGT, puis d'homme politique, avec votre présence au sein du Parti communiste et plusieurs fois conseiller municipal, hein, dans l'opposition. Sans oublier les nombreuses élections auxquelles vous avez participé, hein, que ce soit celles de conseiller général ou même de député, ne me trompe pas.
Oui, oui. Hein? J'étais candidate partout, voilà. Sauf président de la République.
Alors, cet engagement de tous les instants vous a-t-il empêché de lire pour vous ?
Non, ça ne m'a pas empêché de lire. J'avais même un besoin de lire. Parce que quand on est militant, que ce soit syndical ou politique, il y a besoin de comprendre la société, de comprendre les textes de loi, de comprendre les dossiers municipaux qui arrivent. Et je pense que lire, c'est important. Oui. Se former, c'est important. Bon, se former, la formation professionnelle dans son métier. Et en plus, pour nous militants, se former syndicalement ou se former politiquement, quels sont les grands principes, qu'est-ce que défend le syndicat, comment on le met en application.
Quand je parle de lire, je pensais peut-être, quand j'ai écrit cette phrase, à des romans. Peut-être pas forcément à tout ce qui est essais politiques et syndicaux.
Dans ma jeunesse, oui.
Non, mais une fois que vous étiez engagé...
Oui, beaucoup moins.
Alors, on vous retrouve en 2015. Vous participez à l'écriture d'un livre de l'Union départementale CGT de l'Ain, 1995-2015, Regard sur l'histoire sociale dans l'Ain, avec le chapitre Billon à Oyonnax. Oui. Hein, la grande maison.
Oui, c'est comme ça que l'appelait, parce que voilà. C'était au début, c'était le syndicat qui fonctionnait le mieux. Et c'était un exemple pour les salariés, pour la population oyonnaxienne. Et c'est eux, c'est pas nous qu'on l'a baptisé comme ça, c'est eux qui disaient Billon, ah oui, la grande maison. Parce que c'était l'exemple syndical chez Billon. Et c'est pas dû ça, spécialement à moi, c'est tous ceux aussi qui sont venus avant moi, qui ont construit... Moi, je suis arrivé, le syndicat, il existait.
Alors, le fait d'écrire qu'on vous retrouve dans ce livre, est-ce que ça vous a donné envie d'en écrire plus pour votre ville d'adoption, Oyonnax en l'occurrence, le chapitre sur Billon?
À ce moment-là, non. Quand on a écrit ce texte à trois, non, pas spécialement.
C'était il y a 10 ans, oui.
Ouais. Ouais. Mais au fur et à mesure que ça passait, au fur et à mesure que je vieillis, je me suis dit, il faut que ça reste quelque chose des luttes personnelles, mais pas simplement. Des luttes qu'ont menées les anciens, nos prédécesseurs, comment ça s'est passé, comment on a créé le syndicat sur Oyonnax, comment il y a eu les différentes bagarres. Et quand même, en 1913, une coopérative oyonnaxienne fait 3 mois de grève. 3 mois de grève. Et ils reprennent le boulot pour des licenciements. Là, ce n'est pas pour des augmentations de salaire, pour des licenciements. Ils reprennent le travail, la tête haute, parce que tout le monde est réintégré. Il n'y a plus de licenciements. Et on réembauche. Et donc, les années 2012-2013 sur Oyonnax ont été importantes au niveau des...
1912, oui, malheureusement. Ouais. 1912-1913. Oui. Alors, quand avez-vous décidé de raconter, avec votre prisme d'ancien syndicaliste, d'élu et d'homme de gauche, l'histoire d'Oyonnax?
Eh ben, j'ai commencé en 2023. Ça m'a pris en octobre 2023. Oui. Il est sorti en 2024. Oui, voilà. Il a été écrit en recherche de documents et d'écriture 9-10 mois.
Alors, lorsqu'on décide justement de remonter le temps, le travail de recherche dans les archives s'impose. Où êtes-vous allé piocher toutes vos informations?
Les archives syndicales, les archives municipales ou départementales, des témoignages, de livres qui ont pu être écrits. Donc, et puis, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire, raconter l'histoire, raconter comment ça s'est fait.
Raconter des histoires aussi, ou non?
Oui, peut-être aussi. Mais ce livre, même si j'ai une couleur politique, que je ne renie pas, couleur politique et une couleur syndicale, il est écrit dans la bienveillance. Il n'est pas fait pour critiquer. Il est écrit pour constater. C'est un constat. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, il faut l'écrire. Il faut écrire qu'il y a eu des luttes. Il faut écrire que ce n'était pas facile. Il faut écrire que toutes les luttes, les principales luttes qui ont eu lieu, c'était pour faire respecter la loi. Depuis 1870, où il y a eu fait grève, il y a eu des grèves qui ont, dans l'histoire, dans les archives, enfin, on retrouve à partir de 1870, et on crée le syndicat qui s'appelait pas CGT, avant la création de la CGT nationale, qui a été créée en 1895. Alors, en 1880-82, le syndicat se met en place sur Oyonnax et continue au fur et à mesure.
Alors que ce n'était pas légal ?
Si.
Si, ça venait, si. De, ça venait
parce
de
l'être ? Parce que les syndicats, ça doit être 1884, il me semble.
Donc c'est, ouais, donc, vous parlez de 1880, donc...
Oui, oui,
pas,
bah
ouais.
Oui.
Ils étaient acceptés.
Mais qui s'appelait...
Ils étaient acceptés, mais pas forcément...
Oui. Mais il ne fallait pas critiquer les entreprises.
Ah ben non.
Oui, oui. Mmh. C'était sûrement au début de certaines sortes de syndicats.
Exactement.
Après, ça s'est appelé aussi chambre syndicale. Comme il y avait la chambre syndicale patronale, ouais. Il y avait la chambre syndicale ouvrière des salariés.
Alors, le titre de votre livre, Oyonnax, ingénieuse et rebelle, 100 ans de mémoire ouvrière, bon, donne le ton, hein, on ne parlera ni de rugby, ni du lac Jonin, mais de celles et ceux qui ont fait son histoire, celle d'Oyonnax. Il y a les petits patrons et les ouvriers. Il y a un temps où ils avaient la même couleur politique.
Oui. Ben, disons que c'était... Il n'y avait pas beaucoup de machines en ce temps-là. Pas beaucoup de machines qu'on travaillait. Les gens, ils travaillaient le buis d'abord, la corde. Puis après, c'est arrivé la corde qui était une sorte de matière plastique. Et puis après, les matières plastiques. Mais au tout début, il ne fallait pas beaucoup de capitaux. Il fallait surtout du travail, beaucoup de main-d'œuvre pour travailler, pour faire du peigne ou différents objets. Et donc, il y avait une entente entre les petits fabricants et les ouvriers. C'est pour ça. Et beaucoup, même des petits fabricants étaient de gauche. Hein. C'était pas encore le Parti communiste. Il a existé à partir de 1920, mais c'était des socialistes et de gauche, qu'on soit ouvrier, artisan, petit fabricant, on se retrouvait tous ensemble.
Le livre débute donc par l'histoire d'Oyonnax du côté du travail, hein, le buis, la corne, le plastique. Sans ce premier chapitre, les autres, que ce soit la gauche, les syndicats et les mairies de 1919 à 1953 et de 1977 à 1983, n'auraient pas eu la même histoire, la même couleur sans cette première partie qu'est le travail.
Non. Non, parce que le travail, ça a apporté de la richesse, ça a apporté de la révolte, ça a apporté de la convivialité, ça a apporté de se mettre ensemble, du partenariat. Il y avait beaucoup d'entente, on s'aidait. Il y avait une solidarité, voilà. Il y avait une solidarité entre plusieurs artisans, mais il y avait une solidarité aussi dans la famille, parce que c'était quelque chose de familial. C'est pour ça que les femmes ont travaillé très tôt sur Oyonnax. En règle générale, en France, le travail des femmes, ça vient après la Première Guerre mondiale. Là, beaucoup de femmes travaillent déjà. Des décisions sont prises ensemble dans le couple, même au niveau politique. Et il y a des discussions qui se font dans ce sens-là.
Alors, l'histoire de... Oui. Oui.
Alors, l'histoire, peut-être qu'on va y revenir après, c'est l'horreur sociale, parce que c'est un exemple.
Allez-y.
L'horreur sociale, comment elle s'est construite. Les socialistes voulaient une maison une maison à eux, pour pouvoir se réunir. Et pour ça, il faut de l'argent. Parce que donc, ils ont construit une maison du peuple qui a été inaugurée en 1912. Mais auparavant, ils ont mis en place ce qu'on appelle une coopérative. Il existait une ancienne coopérative, mais qui redistribuait l'argent au prorata, comme on dit, en fin d'année, en fonction des achats qu'on a faits. Plus on achetait, plus on avait de prorata, comme on disait. On collait des timbres, donc chacun se souvient de ça. Et les socialistes qu'ils ont voulu créer, c'est une coopérative d'alimentation, avec caves de vin, avec les coopératives de production, telles que l'imprimerie ouvrière. Mais il n'y avait plus de prorata. Mais tout le bénéfice, c'était soit pour investir, soit dans des caisses de secours. Style, faut se rappeler, 1912, il n'y a pas de sécurité sociale. Et donc, il y avait des sortes de mutuelles ou, entre guillemets, une sorte de sécurité sociale. Quand les gens étaient malades, en accident de travail, en grève, eh bien, la caisse de secours intervenait. C'est quand même... c'est rare tout ça. Et tout ça, c'est mis en place au Oyonnax, à Saint-Claude, mais ça vient de très loin, enfin de très loin, ça vient de Belgique, des socialistes belges qui avaient créé une maison du peuple, une ville dans une ville, où il y avait tout là, tout. Les gens n'avaient pas besoin de bouger, il y avait tout de A à Z, que ce soit alimentation, habillement, et tout. Et c'est il y a des socialistes oyonnaxiens qui sont allés en Belgique, qui sont allés voir comment ça se passait, et qu'ils ont recréé à l'identique sur Oyonnax et sur Saint-Claude.
Alors l'histoire d'Oyonnax, c'est celle des peignes, de la lunette et du plastique, mais c'est aussi celle de la gauche oyonnaxienne, qui, on ne se rend pas assez compte, hein, aujourd'hui, était omniprésente jusqu'à 1953 avec ses personnalités, hein, comme Marie-Léon Arbescarme, René Nicot, Gustave Mermet-Guyennet, Henri Bourbon ou Arthur Candor, et de 1977 à 1983 avec Guy Chavannes et Marcel Mounier. Alors, on a l'impression aujourd'hui que les mots gauche, CGT et Parti communiste sont des gros mots. On n'apprend pas l'histoire de Oyonnax dans les écoles de la ville et ça ne date pas d'hier. Il y a tout ce pan-là qui a disparu depuis longtemps des mémoires de...
Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est une des raisons que j'ai voulu écrire ce livre et rendre justice à Nicot, qui était le maire de 1919 jusqu'à sa mort en 1950. Ensuite, de Guy Chavannes, avec Nicot, un bilan phénoménal et un homme remarquable. Et donc, je pense qu'il faut, pas simplement parce qu'il faisait partie des 80 députés qui ont voté contre Vichy, pas simplement ça, mais par l'apport qu'il a apporté, parce que c'est lui qui a créé ce que je parlais tout à l'heure de l'horreur sociale, avec d'autres, hein, mais c'était lui. Et c'est lui qui a dirigé la ville et qui a fait évoluer, qui est passé d'un village à une ville. Mmh. Et puis, c'est Guy Chavannes, en 77, dans un désert culturel, où pour la culture, il y avait 500 francs par an, avec une vieille bibliothèque avec des livres en rouge et noir. Vu que moi, partout où je suis passé, j'allais dans les bibliothèques. Donc j'y allais, je me rappelle. Et qui a construit un centre culturel. Et tous ses adversaires lui disaient, c'est trop grand, c'est trop beau pour Oyonnax. Et pour autant, aujourd'hui, on pourrait dire que le centre culturel est trop petit. Et on a pu faire des choses phénoménales. Il n'y avait pas de salle de réunion, par exemple, pour les gens. Il fallait se réunir dans les bars, dans les cafés. Et donc, c'est tout ça qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et comment c'est parti, comment ils y sont arrivés, hein, à créer ce centre culturel Aragon. Ils ont été élus au mois de mars, juste avant les vacances. Ils font un sondage chez les parents d'élèves de classe primaire. Et ce qui ressort, c'est que les gens, ils veulent un conservatoire, ils veulent une bibliothèque, ils veulent ces choses-là. C'est ça qui ressort. Et dès le mois de septembre, c'est-à-dire 3-4 mois après leur élection, le conservatoire, il ouvre dans les salles de sport pour certains, dans d'autres salles. Donc, en peu de temps, on a commencé à construire ce conservatoire et, sous la direction de Gérard Humbert, qui était le premier directeur. Et puis... avant que le centre culturel ouvre en février 83.
Alors, le titre de votre livre est « Oyonnax, ingénieuse et rebelle ». Alors, ingénieuse, ça, c'est pour le travail.
Oui.
Oui, rebelle.
Oui, parce que ingénieuse, oui. Ingénieuse, il n'y avait pas d'ingénieur. Mais ingénieuse, parce qu'elle trouvait des nouvelles méthodes de travail qui permettaient d'augmenter la productivité et d'améliorer les conditions de travail.
Alors, rebelle, c'est autre chose. Il y a longtemps qu'Oyonnax n'est plus aussi rebelle, très longtemps. Qui aujourd'hui est fortement opposé, hostile à quelque chose et refuse de se tout mettre au pouvoir en place, qu'il soit politique ou industriel, voire même sportif. Il est où le côté rebelle d'Oyonnax?
Déjà, il a existé. C'est
oui.
déjà pas mal.
oui.
Ça, bon, ça ne suffit pas aujourd'hui. C'est non. une des nouvelles générations, une nouvelle façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que les gens sont contents de leur sort. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a un recul de l'action syndicale, il y a un recul de l'action politique aussi, et que c'est tout à reconstruire pour que les gens s'en sortent mieux. Mais ça, c'est, bon, c'est le futur, ça, c'est l'avenir.
Est-ce que c'est aussi une question de génération? Est-ce qu'il y a une génération qui... Il y a un manque de renouvellement de génération du point de vue politique ou engagé?
Bah, il y a eu aussi des déceptions, aussi, peut-être. Déception du programme commun qui a peut-être entraîné des gens qui se sont mis en retrait de ça. Donc, il faut expliquer, et toujours expliquer. Si on veut convaincre les gens, c'est comme ça. Il faut partir de la base. Et en cette période que l'on parle d'histoire, de 1800 jusqu'à 1950, il y avait un journal, un hebdomadaire, c'était l'Éclaireur de l'Ain. Et je pense que ça a beaucoup aidé aussi à la prise de conscience. Et les gens lisaient l'Éclaireur. L'Éclaireur, il était affiché à l'Aurore sociale. Il y avait des causeries, comme ils appelaient ça, des petites réunions, ça s'appelait des causeries. Et il y avait un orateur qui venait, soit un élaxien, soit ailleurs, qui venait leur parler d'un thème ou d'un autre thème. Plus des grandes conférences qui existaient. Donc, oui, c'est remettre tout ça sur pied, différemment. On n'est plus dans la période de 1900, mais se servir de ce qui a pu se faire.
De tout temps, il y en a été à gauche, parce qu'il y a eu souvent aussi l'union de la gauche.
Il y a eu tout...
à chaque fois que l'union a été un peu brisée, la gauche a perdu.
Oui, ben, c'est-à-dire que la conquérie, la gauche, elle a gagné en 1919. Hein. À la sortie de la guerre, il y a eu des dissensions entre socialistes et communistes. Que certains n'ont pas accepté que Nico fasse ce qu'il a fait. Et donc, à la mort de Nico, le Parti socialiste s'est beaucoup affaibli. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sur des listes de droite de Hémin en 1959, et qui a permis à Hémin d'être élu. La division de la gauche a conduit à ce que... Une des raisons, c'est sûrement pas la seule, hein. Une des raisons qu'Hémin a gagné, c'est la division de la gauche.
Ouais. En 77, c'était l'union de la gauche.
En 77, c'était l'union de la gauche. En 71, de toutes les élections municipales de 1971 à aujourd'hui, il y a toujours eu union de la gauche, sauf une fois, en 95. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Il y a eu une primaire à gauche. Moi, je conduisais la liste du PC, qu'on était devant le PS. Mais bon, on savait que quand on est divisé, souvent on perd.
Ouais. Alors, vous le dites dans votre quatrième de couverture, c'est un livre pour les oubliés, les invisibles, les petites mains, ceux que l'on ne parle jamais. Alors, c'est leur histoire, hein, c'est leur livre. Savent-ils au moins qu'on parle d'eux? Ils se sont reconnus, ils vous l'ont fait savoir?
Bah, disons que déjà, il y en a beaucoup qui ont acheté le livre. Donc, c'est un... au début, je me disais, si j'en vends 350, ben, je serai le roi. Là, il a fallu que j'en fasse réimprimer. J'ai vendu plus de 750. Donc, je suis très, très, très content. Et j'ai de bons retours. Et pas simplement des gens syndicalistes, pas simplement des gens qui sont PC ou proches du PC, des gens de gauche, mais y compris des gens de droite, des gens sans parti pris, et qui achètent le livre, pas pour me faire plaisir, parce qu'ils veulent connaître un peu ce qui s'est fait sur Oyonna, et qui, j'ai des bons retours aussi. Après, ils me disent qu'ils sont, ils sont émerveillés, ils sont contents d'avoir pu lire ce livre et me félicitent d'avoir écrit ce livre sur Oyonna. Donc, je suis heureux.
Alors, votre livre, vous avez fixé le prix de votre livre à 10 euros. Vous avez voulu le rendre abordable à celles et ceux dont vous parlez?
Oui, c'est difficile de combien faut. Moi, je ne suis pas un spécialiste du prix du livre. C'est vrai qu'après, on m'a dit que je n'avais pas mis assez cher, mais bon, je voulais qu'il soit lu. La priorité, c'était ça. Donc, c'est pour ça que, après beaucoup d'hésitations, je l'avais mis à 10 euros. Voilà.
Alors, vous avez commencé à faire dédicacer votre livre dans quelques livres et salons. Alors, quel effet ça fait d'être de l'autre côté de la table?
Ben, ça surprend. Parce qu'on n'a pas l'habitude. J'ai jamais eu l'habitude. Hein. J'ai jamais eu l'habitude de faire cet objet-là, faire ce travail. Mais bon, on s'y habitue. Hein. Alors voilà, c'est bien. Donc j'ai plusieurs initiatives là qui vont arriver. Qui continuent. Bon, il m'en reste plus guère de livres à vendre. Hein, mais avant l'été, il y a 2-3 initiatives que je vais honorer. Permettre de rencontrer des lecteurs ou de futurs lecteurs.
Mmh. Alors justement, quelles ont été les réactions de vos premières lectrices et lecteurs et puis des habitants de Yona, hein, de ceux que vous avez rencontrés? Bon, je parle peut-être plus des anciens, enfin, oui, pas forcément, mais aussi des anciens. Oui. Comment les anciens ont pris ce livre? Est-ce qu'il y en a qui l'ont mal pris?
J'ai pas eu de retour de mal pris. Bon, il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, ou c'est exagère, ou c'est du parti pris. Non, personne. Personne m'a fait ce retour-là. Tous les retours que j'ai, c'est des bons retours. C'est des gens qui sont fiers que ce livre soit écrit, qui sont fiers de pouvoir le lire, de pouvoir le conserver dans leur bibliothèque. Mmh. Parce que c'est un livre à conserver, parce que cette histoire de cette vie ouvrière yonaxienne, de cette vie de Yona, comment ça s'est construit, c'est important aussi que ça reste. Au moment où on parle de la création du musée de la Grande Vapeur, donc c'est bien qu'ils rentrent dans ce cadre et qu'on passe pas simplement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, mais qu'on parle des petits, des oubliés, de ceux qu'on construit au Yonal, les artisans et les ouvriers.
Alors, on peut dire que pour un ancien délégué syndical CGT et ancien conseiller municipal communiste, vous n'avez pas trop été virulent contre les patrons et les conseils municipaux de droite que vous fréquentiez, je trouve. C'est plus l'homme Georges Arpin qui s'est exprimé.
Oui. Oui, c'est pas sous une étiquette syndicale ou politique, en aucune façon. Et j'ai pas voulu, j'ai écrit, pas en critiquant, et je mets en avant ceux qui ont transformé, les 4 maires qui ont transformé Oyonna, Léon Aymin, qui a été le bâtisseur quand même de la ville, c'est vrai, hein. Il a fait 3 mandats. Guy Chavannes, il a fait qu'un mandat, 5 ans de mandat. Mais c'est lui qui a fait le centre culturel et qui a changé la physionomie de notre ville. Et puis Lucien Guichon. Et puis bon, je n'ai pas parlé de René Nico, mais bien sûr, ça va de soi. Mmh.
Alors depuis 2020, vous avez quitté la scène politique, c'est ça? 2018 ou 2020?
2020.
Alors comment avez-vous comblé ce grand vide? Par l'écriture et la lecture?
Oui, en partie. Mais pas que. Hein. Je fais des marches, je fais partie d'un club de randonnée. Club de retraités sportifs, exactement. Et donc, toutes les semaines, je fais des randonnées. Donc, cet après-midi, je devais faire ma randonnée, mais je suis resté fidèle à Radio B.
Désolé. Alors, vous avez connu... j'imagine que vous n'êtes jamais loin lorsqu'il y a une manifestation ou un rassemblement, que ce soit pour défendre les salariés ou les citoyens.
Oui, bien sûr, je continue à participer. Je n'ai plus d'activité, plus de responsabilité. Il y a un temps pour tout. Mais par contre, j'ai participé aux manifestations pour la retraite. Mmh. Toutes ces choses-là, j'y étais. Et je continuerai tant que je peux à y aller.
Alors, vous êtes optimiste, pessimiste ou réaliste quant aux 100 prochaines années de la ville de Yona?
Oula. Déjà, les 20, premières, 20 prochaines années, se projeter. Et pour ce qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un changement de municipalité aussi. Voilà. Bon, je ne suis pas partie prenante, hein, mais je pense que toutes ces années de municipalité de droite, et qu'on fait des choses aussi, hein, sans aucun doute, mais il faut qu'il y ait autre chose, il faut qu'il y ait un changement, il faut s'occuper de l'humain, il faut s'occuper des choses, de la culture, des choses concrètes des gens. Je pense que c'est pas pris en compte, ça.
Écrire ce livre vous a donné envie d'en écrire un deuxième et pas forcément en lien avec votre engagement syndical et politique?
J'ai réfléchi.
Ah, c'est tout. Ah, ce n'est qu'à l'étude. Ce n'est qu'une réflexion pour l'instant.
Non, c'est en recherche. Je suis en recherche de pas de thèmes. J'ai trouvé les thèmes, mais je recherche de documents. Donc c'est ça. Ça sera toujours sur Oyonnax.
Ouais. Ce serait plus un roman ou ça serait toujours.
Non, je reste. L'histoire d'Oyonnax, même dans ce livre, il y a beaucoup de choses, mais il y a des choses que je voudrais encore.
Développer
ouais. Plus précisément. Et je pense que ça nécessite un deuxième livre.
Voilà. Bien. Alors tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont les coups de cœur, nos coups de cœur, les sorties et les dates, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Georges, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Mon dernier coup de cœur,
ouais, littéraire,
c'est Christian Cotte-Aymard. J'ai lu son dernier livre que je ne me rappelle plus du titre. C'est Chronique oyonnaxienne, voilà. Et que j'ai trouvé hyper intéressante, bien écrite. Et c'est le dernier livre que j'ai lu, en dehors de mes recherches. Hein, mais mais là je pense que c'est un très beau livre.
D'accord. À côté de propositions d'un quinzaine, notons le livre de Damien Maudet, Un député aux urgences, aux éditions Fakir.
D'accord.
Voilà, le roman d'Aurélie Valogne, La fugue, aux éditions Jean-Claude Lattès. Le livre de Niels Planel, Pour en finir avec la pauvreté dans les pays riches, aux éditions de l'Aube. Il y a du boulot. Le roman noir de François Médéline, La politique du tumulte, aux éditions Point. Le livre de Mathieu Bosque, À la recherche des profs perdus, aux éditions de l'Aube. Le thriller de Camilla Stein, Le manoir des glaces, aux éditions Point. Le polar de notre ami Cécile Baudin, Dur comme fer, paru aux éditions Les Presses de la Cité. Le livre de Marc Joly, La pensée perverse au pouvoir, aux éditions Anna Moza. Le polar de Marc Woltenhauer et Nicolas Feuze, Ultimatum, aux éditions Istia et compagnie. Et le livre de Laurence Bertrand d'Orléac, L'art de la défaite, 1940-1944, aux éditions Point. Le thriller de Natsuo Kirino, Monstrueux, aux éditions Point. Le livre de Tanguy Perron, Tapis rouge et lutte des classes, aux éditions de l'Atelier. Le polar de Robert Thorogood, Les dames de Marlowe, enquête, poison en huis clos, aux éditions Point. Le livre d'Agnès Martin-Lugan, Les renaissances, aux éditions Michel Lafond. Le thriller politique de Frédéric Mars, La lame, aux éditions Point. Et le livre de Coralie Grimand, Inventaire du matrimoine, aux éditions Arléa. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces, on va les annoncer ensemble, vu que vous en faites partie. Allons-y. Je vais annoncer. Ça vous annonce le premier.
Alors, à Nantua.
Donc, c'est le samedi 22
mars. Samedi 22 mars, voilà. L'espace André Malraux. C'est le 14e salon du livre de 10h à 18h avec Philippe Debise, moi-même, Christian Cotte-Aymard, Robert Ferrari, voilà. et puis tant d'autres.
Il y en a une cinquantaine en tout.
Oui, hein. Oui.
Voilà. À la librairie Montbarbon à Bourg-en-Bresse, Coralie Grimand de 15h à 18h. Le prochain est pour vous aussi.
Alors, MJC L'Embarcadère à Toisset, c'est le salon du livre de 10h à 17h.
Et à la Chapelle des Jésuites à Bourg-en-Bresse, le soirée littéraire et musicale à 17h avec Bernard Courtebras, Luc Charin, Rabai Haït Oufella, Christian Lax, Dominique Senor et le duo Vertige Vocal.
Et le dimanche 23 mars, deuxième journée du salon du livre à Nantua.
Je continue. Le jeudi 27 mars, à la bibliothèque Bagel-Châtel, le festival Motamou avec notre ami Cécile Baudin de 15h à 16h.
À la bibliothèque de Miribel, le festival Motamou avec Cécile Baudin de 19h à 21h.
Le vendredi 28 mars, à la bibliothèque de Césaria, le festival Motamou, toujours avec Cécile Baudin de 20h à 21h.
Et la médiathèque de Châtillon-sur-Chalaronne, le festival Motamou avec Valentine Gobi, de 18h30 à 19h30.
Le samedi 29 mars, à la bibliothèque de Rérieux, festival Motamou avec Valentine Gobi, de 10h30 à 11h30.
Et chez moi, à la médiathèque d'Oyonnax, le festival Motamou avec Valentine Gobi, oui, toujours, de 14h30 à 16h.
Il y a d'autres séances de dédicaces prévues durant la saison, on va dire ?
Il y a le 17 mai, le samedi 17 mai, il y a un salon de l'été organisé par la mairie à Balespo, donc je serai présente. Et il y aura un festival, où, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'Écho des Pierres à Bélignat. Ça doit être le 24 ou le 25 mai. Et il y a quelques auteurs, dont moi, qui seront présents.
Bien. Voilà. Eh ben, Roman de Gard, c'est terminé. Oui, voilà. Oui.
Et aussi, je serai au congrès de l'Union départementale CGT le 12 ou le 13 juin. 12 et 13 juin à Perona.
Voilà. Roman de Gard, ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Georges Arpin, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B de Roman de Gard.
Merci, c'est à vous. Très bonne émission.
Merci. Rappelons que votre premier livre, Oyonnax ingénieuse et rebelle, 100 ans de mémoire ouvrière, est paru le 13 septembre 2024. On peut se procurer où ?
Particulièrement sur Oyonnax, à la librairie Buffet et à Bélignat, au point de presse de Bélignat et au bureau de presse d'Intermarché à Oyonnax.
Voilà. Voilà. Et puis au Salon du Livre à Nantua, voilà. Les 22 et 23 mars. Le prochain invité, on peut suivre votre actualité via les inévitables réseaux sociaux ?
Oui, ouais. Bien sûr. Ouais.
Le prochain invité de Roman de Gard sera le jeudi 3 avril 2025, sera l'auteur au Savoyard Ivan Strelzik. Il présentera son dernier roman, Les Conjurés, paru le 24 octobre 2024 aux éditions de l'Astronome. Georges, bonne chance pour la suite de vos aventures d'auteur.
Ben oui. Hein,
ben oui, ouais. Bonne séance dédicace et puis à bientôt sur Radio B.
Merci beaucoup. Au revoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.